VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. 4 nouveaux cas d'Ebola, parmi lesquels 2 membres du personnel soignant, ont été enregistrés ce mercredi à Bikoro, l'épicentre de la nouvelle épidémie qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. La maladie ici construite donc dans la région de Bikoro, située au nord-est de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville, a déjà fait 17 morts pour 25 cas. Les autorités congolaises et leurs partenaires ont indiqué mercredi qu'ils organisaient la réponse face à cette nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Eddie Sango a joint le médecin épidémiologiste de la province de l'Équateur, Dr José Monzenbela.
Le village Kopoipenge est à 45 km du bureau central. C'est là que se vit le phénomène de la maladie à virus Ebola. Nous sommes en Bandaka, chef de l'Équateur. Bikoro, c'est l'une des zones centrales de la province. Les gens sont en train de mourir. Donc, on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc, le dimanche, on a eu des éléments. Donc, ils ont amené 5 échantillons prélevés. On a trouvé 3 au centre santé de Kopoipenge dans ce village et 2 malades aussi à l'hôpital général de l'Ouest de Bikoro. Donc les 5 échantillons de malades trouvés actifs ont été envoyés à l'INRB et parmi lesquels 2 résultats sont revenus positifs. Donc à l'heure actuelle, on est à pied d'œuvre. Il y a une équipe déjà des experts sur terrain. Il y a aussi un appui du niveau central, une délégation arrivée, donc du ministère de la Santé avec le partenaire. On est en train de travailler pour renforcer la lutte contre ces fléaux, donc la maladie à virus Ebola.
Est-ce que la population est informée de ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un présentant des signes de cette maladie?
La sensibilisation doit être continue. Ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle. La première fois, bon, ça il faut remonter dans l'historique quand la province était encore une depuis longtemps. Alors maintenant là, que ce phénomène est survenu, donc tout est en marche pour la réponse en rapport avec la prise en charge, la communication à la population pour prendre des précautions pour ne pas être atteinte par la maladie. Donc le premier phénomène c'était à Yambuku, donc à plus de 600 km d'ici. Le dernier phénomène c'est à La Chuapa maintenant comme province, à plus de 500 km aussi d'ici. Donc ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle.
On sait que la population de ces côtés vit entre autres de la chasse et les animaux sont les vecteurs porteurs de ces virus. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le comportement à avoir quand ils vont en chasse par exemple?
Ce qu'il faut savoir que nous sommes dans la forêt équatoriale, il y a le gibier, il y a tout cet écosystème qui est favorable à l'éclosion de cette maladie. Ce que nous devons faire c'est tellement renforcer la communication, la sensibilisation à la population pour prendre des dispositions qui s'imposent. Je pense qu'avec la déclaration des ministres qu'il a dit, toutes les dispositions sont prises pour mettre fin à la maladie.
Docteur José Monzenbela, médecin épidémiologiste de la province de l'Équateur. L'opposant en exil Moïse Katumbi a démenti hier avoir voulu recruter des émissaires pour ouvrir des hostilités en République démocratique du Congo. Nouvelles accusations portées contre lui par le pouvoir du président Joseph Kabila. Mon combat est et restera pacifique. Je suis candidat à la présidence de la République de mon pays, déclare dans un communiqué l'opposant en référence à l'élection prévue le 23 décembre qui doit marquer le départ du président Joseph Kabila. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko parle d'un simulacre de procès inique visant à l'achever. Les détails avec Abdourahman Dia.
Les réquisitions sont attendues demain dans son procès qui a commencé lundi devant la cour criminelle. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a choisi de se taire aux audiences. Son avocat dit qu'il a une immunité juridique qui a été rejetée par la Cour suprême. Dans une lettre datée du 8 mai, l'ex-chef d'état-major de l'armée congolaise et ancien conseiller du président Denis Sassou Nguesso accuse la dictature de vouloir l'achever par un simulacre de procès inique. Mardi, la Cour a diffusé une vidéo datant de 2007 qui était censée l'incriminer. Elle a été rendue publique en 2016 quand le général avait lancé sa candidature à la présidentielle. L'officier avait terminé 3e de la course. Après ce vote, il n'avait pas reconnu la victoire du président sortant et avait appelé à la désobéissance civile. À Brazzaville, 2 militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol ont été arrêtés alors qu'ils placardaient des affiches libérées les prisonniers politiques.
Inondation au Kenya, la rupture d'un barrage dans le centre du pays, mercredi soir, a fait au moins 27 victimes emportées dans leur sommeil par les eaux boueuses et tumultueuses de la retenue d'eau en pleine saison des pluies, qui a fait près de 160 morts depuis le mois de mars dans le pays. Le drame est survenu près de la ville de Nakuru, à environ 150 km au nord de Nairobi. Au moins 36 personnes ont été admises dans des établissements médicaux de la région. Au moins 11 personnes ont été tuées et 10 blessées mercredi dans une explosion sur un marché très fréquenté d'une petite ville de Somalie située au nord de la capitale Mogadiscio. L'explosion s'est déroulée dans l'après-midi à une heure de forte affluence sur le marché où de nombreux habitants se pressaient pour acheter du krat, une plante euphorisante très prisée des Somaliens. L'attentat n'avait pas été revendiqué mercredi soir. Le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis et dans de nombreuses grandes villes à l'issue des premières municipales démocratiques de Tunisie. Un résultat qui ne lui garantit cependant pas de contrôler ces villes à défaut de majorité. À l'échelle du pays, ce sont les listes indépendantes qui ont remporté le plus grand nombre de sièges avec 2367 élus, soit 32,9% des sièges.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À ce micro, Jean-Roger Billon, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi la Birmanie à accélérer ses efforts pour un retour volontaire et en sécurité des réfugiés rohingyas, l'incitant à poursuivre des auteurs de violences sans réclamer d'enquête sur les violations de droits de l'homme. Mardi déjà, 4 ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, Fortify Rights et le Global Center for Responsibility to Protect avait réclamé à l'ONU de saisir la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité commis en Birmanie. Il est évident que les autorités birmanes ne peuvent se juger elles-mêmes, avait alors relevé Paramprit Singh de Human Rights Watch. Gina Haspel, choisie par le président Donald Trump pour diriger la CIA, a promis aux sénateurs américains de ne pas reprendre le programme dit d'interrogatoire poussé contre les terroristes présumés. Le point avec Anne Alberson.
Madame Haspel, première femme à diriger l'agence de renseignement américaine en cas de confirmation de sa nomination, déposée mercredi devant la commission compétente du Sénat. Elle a passé 33 ans au sein de la CIA. Son nom est associé à un épisode sombre de l'agence de renseignement américaine, le programme de prison secrète et de torture mis en place après les attentats du 11 septembre 2001. Et une bonne partie de ses audiences publiques a porté sur sa supervision en 2002 en Thaïlande d'une prison secrète de la CIA où des prisonniers ont été assujettis, entre autres, à des séances de waterboarding ou simulacres de noyade. Je peux vous assurer de mon engagement personnel et sans réserve que sous ma direction, la CIA ne reprendra pas un tel programme de détention et d'interrogatoire, a affirmé Gina Haspel. Mais elle a refusé à plusieurs reprises de condamner comme étant illégal ou immoral de telles pratiques qualifiées de torture par des détracteurs.
Donald Trump a accueilli tôt ce jeudi, en pleine nuit, les trois Américains libérés par Pyongyang, une image forte et chargée en symbole à l'approche de sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Peu avant 3 heures du matin, 7 heures GMT, le président américain et la première dame Melania Trump sont montés à bord de l'avion dans lequel venaient d'arriver les trois hommes sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, où un immense drapeau américain avait été déployé. L'armée syrienne a utilisé 28 avions et a tiré 70 missiles contre les infrastructures iraniennes en Syrie, a affirmé aujourd'hui le ministère russe de la Défense, précisant que la moitié des missiles avaient été détruits par le système de défense antiaérienne syrien. La Russie appelle à la retenue après ses frappes contre la Syrie, faisant part de sa préoccupation. Le gouvernement allemand a qualifié de graves provocations les tirs iraniens depuis la Syrie sur la partie du Golan occupée par Israël, dont a fait état l'État hébreu. La tension est brusquement montée entre l'Iran, Israël et Israël en Syrie, où l'État hébreu dit avoir bombardé des dizaines de cibles iraniennes en représailles à une première attaque directe attribuée à la République islamique contre les forces israéliennes. Et puis, près d'1 million de soldats, policiers et combattants votent ce jeudi à travers l'Irak pour les premières législatives organisées dans le pays depuis la victoire sur le groupe État islamique. Deux jours avant le scrutin parlementaire de samedi, les bureaux de vote installés dans les écoles ont ouvert à 7h et vont fermer ce soir à 18h. Fin de ce journal, Jean-Roger Billon. Le prochain sera présenté par Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.